RFI, 6h30, à Bukavu, 4h30 en temps universel. C'est le début d'une demi-heure d'actualité africaine avec Sébastien Duhamel. Bonjour Sébastien.
Bonjour Marion, bonjour à toutes et à tous.
La situation dans l'est de la RDC à la une de votre journal.
Avec des déplacements de population à nouveau constatés dans la région de Kamanyola, notamment au sud Kivu. Certains font le choix de franchir la frontière vers le Rwanda. Reportage sur place dans quelques instants. La situation politique instable du Soudan du Sud avec des combats à nouveau ces dernières semaines entre l'armée du président Salva Kiir et les forces de l'opposition du vice-président Riek Machar. Le gouvernement malgache qui souhaite relancer le secteur pétrolier, attirer les investissements. La sécurité routière avec la quatrième conférence ministérielle qui s'ouvrira aujourd'hui à Marrakech, au Maroc, sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé, première édition sur le continent africain. L'actu sport également au programme comme tous les jours. Soyez les bienvenus. 24 heures après la prise de Bukavu, sans combat majeur par les éléments du M23 soutenus par le Rwanda. Sur place, la vie a timidement repris ses droits hier dans la capitale provinciale du Sud Kivu, dans l'est de la RDC. Mais dans la crainte de combats, comme ce fut le cas notamment à Goma, au nord Kivu, où près de 3000 morts ont été recensés par les Nations Unies, de nombreux habitants de la région ont choisi de fuir à une quarantaine de kilomètres plus au sud de Bukavu. Plusieurs centaines de personnes du territoire de Kamanyola ont ainsi franchi la frontière rwandaise vers Bugarama, où s'est rendu notre envoyé spécial Lucie Mouillot, reportage.
Quelques affaires à la main, Chigashama sort de l'église transformée en centre d'accueil pour les réfugiés de Kamanyola avant de monter dans un bus en direction de Bukavu.
À Kamanyola, on entend les crépitements de balles. Et quand on entend des tirs, il faut fuir. C'est pour ça qu'on est parti.
Selon les autorités, près d'un millier de personnes ont traversé ce lundi la frontière de Bugarama, restée fermée ces deux derniers jours. De nombreux habitants parlent de tirs et de pillages à Kamanyola. Béatrice Bakolé-Koné n'a presque rien pu emporter avec elle.
Je n'ai que ce sac et ces habits. Je vais en vendre certains pour avoir un peu d'argent parce que je n'ai rien. Ma famille est à Bukavu, je suis toute seule.
Après l'entrée ce dimanche du groupe armé du M23 à Bukavu, certains habitants craignent que des affrontements descendent au sud de la capitale provinciale jusqu'à atteindre Kamanyola.
On ne pouvait pas rester à Kamanyola alors que nous voyons que peut-être c'est là où va se passer la totalité de la guerre, quoi. Ils sont là, ils se préparent pour la guerre et nous, la population, on craint les bombes parce que les militaires burundais sont là et ils sont prêts pour se battre. Mais là, la population a peur, c'est pourquoi nous avons traversé la frontière.
La majorité des arrivants continuent leur route vers Bukavu, Goma. Plusieurs milliers de personnes avaient déjà fui Kamanyola ces derniers jours en direction du sud, notamment au Burundi. Lucie Mouillot, de retour de Bugarama, RFI.
Une situation dans l'est de la RDC face à laquelle la diplomatie congolaise dénonce l'inaction et l'attentisme du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce sont les mots de l'ambassadeur congolais aux Nations Unies, Zénon Mukongo Ngai, qui s'est adressé au Conseil dans un courrier consulté par l'agence France Presse. Kinshasa y réclame à nouveau des sanctions ciblées contre le Rwanda et un embargo sur les exportations de ressources naturelles étiquetées comme rwandaises. Pendant ce temps, la société civile congolaise se mobilise, elle, pour répondre à la Cour pénale internationale. Son procureur à La Haye a lancé un appel à témoins sur d'éventuels crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis dans l'est de la RDC ces dernières semaines. L'association nationale des victimes du Congo s'est donc mise à la tâche pour répondre à cet appel. C'est ce que nous explique ce matin son directeur, Miron Molumba.
L'association nationale des victimes au Congo s'est livrée à cet exercice de pouvoir documenter, certifier les différents incidents qui ont caractérisé ces violations systématiques des droits de l'homme. Au travers nos antennes implantées sur place, il était plus qu'impérieux dans les temps voisins de la commission de toutes ces exactions de pouvoir collecter notamment les images, non seulement les images, mais les témoignages patents de certaines victimes, soit directes et indirectes. Photographie, tuerie massive de population, les viols systématiques de femmes et tout toutes ces exactions perpétrées dans le nord Kivu et dans le sud Kivu avec l'entrée du mouvement M23 et AFC de M. Corné Nanga et constituer un paquet en termes de preuves pour devoir fournir tous ces éléments importants au bureau du procureur. Voilà pourquoi nous implorons le bureau du procureur de passer à la vitesse supérieure. Les victimes de l'armée du Congo étant déjà victimes de juridiction congolaise, ne voudront pas encore une fois de plus être victimes de la prestation du bureau du procureur.
Mirande Moulumba, le directeur de l'Association nationale des victimes du Congo. Et avant de quitter l'Est de la RDC, notons cette manifestation organisée hier par des jeunes proches du M23 à Goma. Sit-in devant les bases de la MONUSCO, la mission onusienne, pour réclamer son départ et celui des autres forces internationales, alors que le chef-lieu du Nord Kivu est sous contrôle du groupe armé depuis plus de 3 semaines maintenant.
RFI.
Malgré l'accord de paix conclu en 2018, après une guerre civile débutée 5 ans plus tôt, la situation politique reste pour le moins instable au Soudan du Sud, avec des combats à nouveau signalés ces dernières semaines dans plusieurs régions. Ils ont opposé l'armée soudanaise dirigée par le président Salva Kiir aux forces de l'opposition, loyale quant à elle au vice-président Riek Machar. Dans le village de Nassir, notamment dans le nord-est du pays, ces combats ont provoqué la fuite de nombreux habitants. Mais les belligérants, Florence Mietto, se rejettent la faute de ces nouvelles tensions.
Chaque camp donne sa version. Le porte-parole de l'armée sud-soudanaise du président Salva Kiir accuse les forces armées de l'opposition de constamment inciter les jeunes armées. Mais le commissaire du comté de Nassir, membre du parti de Riek Machar, accuse l'armée sud-soudanaise d'avoir lancé une attaque sur des civils dans le marché, provoquant de lourds combats, a-t-il déclaré. Et si les combats de Nassir n'opposent pas directement l'armée sud-soudanaise aux forces de l'opposition, mais plutôt à de jeunes civils armés, ils ont lieu dans un contexte particulièrement tendu. En effet, depuis début janvier, chacun s'accuse d'être à l'origine des tensions et la presse locale en fait largement écho. Selon le militant de la société civile Termanyanga Twetch, les activités de recrutement de l'armée sud-soudanaise sont perçues comme, et je cite, une manœuvre stratégique. Pour Edmund Yakani, autre représentant de la société civile, ces combats vont à l'encontre du cessez-le-feu. Il craint que le pays ne replonge dans une guerre civile à grande échelle. Les combats de Nassir rappellent l'urgence de l'application de l'accord de paix de 2018 qui prévoit la création de forces armées unifiées de plus de 80 000 soldats. Florence Mietto, Djouba, RFI.
Confronté aux difficultés financières, le projet du gouvernement malgache à présent pour assainir et relancer le secteur pétrolier de la Grande Île. La délivrance de permis là-bas est gelée depuis 6 ans, alors que Madagascar dispose d'un large bassin sédimentaire. Concrètement, cela laisse espérer des gisements d'hydrocarbures. Mais pour l'heure, seule une entreprise, Madagascar Oil, dispose d'un bloc pétrolier. Mais elle ne l'exploite plus depuis 2016, faute de moyens. Alors, le gouvernement malgache veut donner une nouvelle impulsion pour attirer les investissements et relancer les explorations. Sarah Teto.
Les études menées jusqu'à présent sur et autour de l'île ont montré un vrai potentiel en matière de pétrole, gaz naturel, huile lourde et grès bitumineux, affirme Olivier Rakoutmalal, le ministre des Mines. Aussi, Madagascar ne doit pas manquer le coche.
L'énergie fossile joue encore un grand rôle dans le mix énergétique mondial. Les récentes découvertes d'hydrocarbures au niveau de l'Afrique de l'Est, Mozambique, Kenya, Tanzanie, ça a suscité un grand intérêt au niveau de l'investissement en termes d'exploration. Bien évidemment que les annonces du président Trump au sujet du forage pétrolier ne font que renforcer la décision du gouvernement à relancer le secteur pétrolier.
Seulement, pour pouvoir allouer de nouveaux blocs pétroliers, l'État doit d'abord assainir l'existant, à savoir 22 blocs déjà attribués et qui appartiennent toujours juridiquement à une quinzaine d'entreprises internationales.
Ces blocs pétroliers ont été attribués à partir des années 2000 par décret présidentiel. Pour libérer ces blocs, nous devons prendre un décret pour pouvoir les annuler et pouvoir de nouveau attribuer ces blocs à des nouveaux investisseurs. Nous devons aussi mettre à jour le modèle de contrat de partage de production pour le rendre beaucoup plus équitable et qu'il réponde mieux aux attentes environnementales et sociales qui ne sont plus les mêmes qu'il y a 20 ans.
Le ministère espère annoncer la réouverture des blocs pétroliers au plus vite. Plusieurs grandes majors ont déjà fait part de leur intérêt. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
Un anniversaire aujourd'hui en Gambie. Le pays fête le 60e anniversaire de son indépendance en ce 18 février. Indépendance acquise de l'ancienne puissance coloniale britannique et comme chaque année, une cérémonie se déroulera dans la capitale Banjul avec une série de défilés dans l'enceinte du McCarthy Square, un festival de musique, un match de lutte. Cérémonie qui coïncide également avec le changement de régime qu'a connu la Gambie le 18 février 2017 lorsque le président Adama Barrow a prêté serment mettant fin à 22 ans de dictature. Un véritable enjeu de société maintenant, la sécurité routière et direction avec prudence, le Maroc, Marrakech, où s'ouvrira ce matin la 4e conférence ministérielle sur le sujet. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui l'organise et pour la première fois d'ailleurs sur le continent africain. Très touché, hein, lui aussi, par la mortalité routière. Alors, l'éducation et la sensibilisation sont primordiales ici et le travail de signalisation est sur les infrastructures routières également. C'est le credo en Côte d'Ivoire de l'ONG Amende Œuvre. Reportage à Boaké, signé François Mferkataji.
Barrières de sécurité, séparateurs, dodanes, où et comment mettre en place ces aménagements, c'est le travail de l'ONG Amend qui s'appuie sur une analyse détaillée du trafic, de la vitesse des véhicules, de l'état des routes. L'ONG œuvre notamment à Boaké, aux abords des écoles, ville connue pour son nombre important de deux roues en circulation. Mélissande Boyer, responsable du programme.
Et à ce moment-là, on est capable de faire une proposition de l'amélioration de l'infrastructure, de sorte qu'on puisse, d'une part, protéger les enfants séparés de la circulation et ralentir la vitesse des usagers de la route, qui sont les premiers dangers pour ces enfants.
Une collecte de données fastidieuse et coûteuse, aujourd'hui facilitée par l'intelligence artificielle. Jacques Amatcha est le responsable informatique de l'ONG.
Aujourd'hui, par exemple, on utilise un drone et on capte l'information. On utilise ensuite l'intelligence artificielle pour analyser en fait les flux de véhicules, les trajectoires et tous ces éléments. Ce qui nous permet en fait de gagner par exemple autour de 3 semaines en efficacité.
Les dodanes ou ralentisseurs restent la solution la plus efficace pour faire rapidement baisser le nombre d'accidents. Aménagement, mais aussi sensibilisation. À Boaké, les recherches du géographe Emmanuel Bonnet montrent que le casque est mal utilisé ou ne l'est pas du tout.
39% des usagers de moto portent le casque, 25% d'entre eux le portent mal, ne ferment pas la jugulaire ou le portent de travers sur la tête. Et par contre, 100% des passagers...